Ah, l'Apocalypse. Je sais pas ce que ça veut dire. L'ad publicité, Apocalypse, oui. Ok. En gros, la fin de la publicité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, vous le savez, ici on décortique un mot, une expression dans l'air du temps pour mieux comprendre notre époque. Et aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à parler des dangers pour les annonceurs de s'associer à des contenus borderline, pour bien comprendre les dangers de la pub sur le net, il nous faut d'abord remonter le temps jusqu'en septembre 2004. Et conduit par Jocelyne Tapineau, son flirt du dernier bal des pompiers de Ponto Combo, Cyril Lacarrière erre au volant de la 106 de son beau-père dans les rues désertes de la ville, songeant à un moyen de la reconquérir quand, le soir, sur son Blackberry, il reçoit un courriel inespéré. La Providence lui envoie un certain Aboubacar Traoré, marabout assermenté, qui lui propose, moyennant une toute petite contrepartie financière, le retour rapide de l'être aimé. C'est l'objet du mail. Trois jours plus tard, Cyril, qui prend toujours trop à cœur tout dans sa vie, est dans l'avion pour Dakar, car je cite sa réponse à Monsieur Traoré, il vaut mieux que je vous explique en vrai. Dans ses bagages, quelques précieuses reliques de la Tapineau que lui a demandé le marabout pour mieux cerner son esprit, un gloss Sephora, un string camailleux et le reste d'un T-bone partagé au Buffalo Grill de Roissy-en-Brie le soir de la Saint-Valentin. La suite, on la connaît tous, Jocelyne ne répondra jamais au mail de Cyril qui devra se rendre à l'évidence, il a été victime d'un brouteur. Et c'est là que vous vous dites, pourquoi cette anecdote qui aurait été parfaite pour introduire notre émission sur les brouteurs, disponible en podcast.
Mathieu.
Bien sûr. Alors, on va parler aujourd'hui de l'Apocalypse, ce chaos qui survient quand des annonceurs se retirent brusquement en masse lorsqu'ils réalisent que les contenus qu'ils sponsorisaient sont limite. Eh bien, je vais vous le lire tout de suite et sans tricher. Au moment d'écrire ce lancement, au lendemain d'un nouvel an richement arrosé, je n'avais tout simplement rien compris à notre thème du jour, l'Apocalypse. Mais alors, rien du tout. Il faut dire que ma seule source d'information sur le sujet était alors le doux sasseur de Cyril, document qui n'a jamais permis à quiconque de comprendre quoi que ce soit à un thème du jour, mais promis. Maintenant, j'ai compris et je vais vous le prouver. Zoom Zoom Zen, c'est parti. Et bonjour Nathalie Sonac.
Bonjour.
Nathalie, on est heureux de vous re-recevoir dans Zoom Zoom. Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris Panthéon Assas. Vous avez été membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 2015 et 2021. Votre dernier livre s'intitule « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique » aux éditions Odile Jacob. On en avait déjà parlé ici. Et comme vous savez ce que signifie l'expression « apocalypse », vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'est un problème dans l'écosystème médiatique actuelle, juste le temps de vous présenter mes valeureux camarades. À commencer par celui qui, on va se dire les choses, nous a fait peur, puisque ce week-end, au détour d'une des 50 stories qu'il publie chaque jour sur Instagram, on l'a découvert exhibant fièrement des tatouages tribaux maoris sur le cou. Pour Cyril, c'était évidemment un motif de licenciement, et en arrivant dans l'open space ce matin, il nous a demandé, je cite, si on pensait qu'il avait vraiment fait. Mais non, c'était une blague, ça doit être du aîné, a dit Manon, avant que Cyril ne formule cet argument qui nous a tous fait froid dans le dos, je cite, un type qui est capable de porter un blouson Valentino aussi, est tout à fait capable de se faire un tatouage maori dans le cou. Le silence qui a suivi sembla interminable. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Manon, vous dites tatouage éphémère au aîné. Quentin, rassurez vos fans.
J'ai mis du temps en plus à pouvoir les enlever. Non, mais c'est des faux tatouages en fait.
Ah, d'accord,
oui, bien sûr.
C'est quand même des faux.
Des décalcomanies.
Exactement. Ils ne sont plus là. Prouvez-le pour ceux qui nous suivent en vidéo. C'est bon. Même pas de
mais
marque
même
rouge.
Temporaire, pourquoi vous avez fait ça?
Bon, ça restera dans mon histoire.
De l'alcool, je pense.
Très bien. Heureusement que le Drive Mury a commencé. Voilà. Quentin, voilà. Chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre terme du jour. Alors, Apocalypse, est-ce qu'il situait mieux que moi?
Alors, pas du tout. Non. C'est même avec une certaine délicatesse que j'ai eu à traiter ce sujet, parce que j'avais moi-même le doux sasseur en argument. Mais finalement, à force de rencontres et d'échanges dans la rue, on arrive à un micro-trottoir complètement à la rue, de qualité.
Et c'est vous qui le dites, quand même plus pratique.
Quand voilà. Même.
À vos côtés, Nathalie, elle n'a aucun tatouage, mais en revanche, je connais bien...
J'en ai cinq.
Je connais... Oui. Vous avez 5 tatouages?
Oui, Mathieu.
Oh là là, c'est fou.
On se connaît pas assez.
Hier, vous disiez qu'elle était à Méribel alors qu'elle était à Rome. Là, qu'elle n'a pas de tatouage alors qu'elle en a.
Mais sur les bras,
vous essayez, est-ce que vous essayez d'insinuer que je suis complètement la ramasse et la carrière?
Vous
commencez mal 2025, je vais vous dire. Bon, Manon, oublions le lancement et allons-y franchement. Manon. Manon, elle nous envoie la musique de drôle de dame, évidemment, qui vous convient.
Charlie, c'est drôle de dame, on y va.
Manon, chaque jour, la personne à suivre, l'autre personne à suivre.
Une personne derrière le plus gros bloqueur de publicité sur Internet au monde, Adblock.
Vers 16h30, nous plongerons dans les bas-fonds de la publicité sur Internet. Vous savez, celle qui apparaît sur votre fil actuel avec des titres comme Anne-Sophie Lapix dévoile la femme qui partage sa vie, respirez fort avant de cliquer. Le Zoom Zoom Test sera consacré à cette tactique publicitaire honteuse qu'on appelle le clickbait. Juste avant 17h, Rosa Burstein viendra nous présenter ses vœux. Mais d'abord, Nathalie Sonnac, avec l'arrivée de tous ces nouveaux médias, des réseaux sociaux évidemment, des chaînes YouTube, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans l'interdépendance entre la pub et l'information? Est-ce qu'il n'y a pas un flou artistique qui s'est créé là?
Ah, la grande difficulté de cette question, c'est combien coûte l'information? Et comme l'information coûte extrêmement cher à produire, il faut traiter, vérifier, hiérarchiser, eh bien, il faut bien quelqu'un qui soit là pour couvrir son coût de production. Et comme en France, par exemple, 82% des Français ne payent pas pour s'informer, eh bien, dès lors, les producteurs d'information sont obligés de se tourner vers une autre source de financement que sont les revenus publicitaires.
Nathalie, c'est grâce à lui et aux documents éclairants qu'il nous pond chaque après-midi dans le Google Doc partagé que je n'ai rien compris à notre sujet du jour. Alors, Cyril Lacarrière, il est temps de vous rattraper. L'Adpocalypse, d'où ça sort?
Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous le problème?
Je pense que c'est vous. Entre-temps, vous avez dû remanier le d'où ça sort. Enfin, on va l'entendre.
C'est à un certain Félix Kjellberg qu'on doit notre mot du jour. Ce nom ne vous dit rien et c'est normal. Ce Félix Kjellberg est pourtant suivi par plus de 110 millions de personnes sur YouTube. Mais comme Johnny Hallyday, Félix Kjellberg a un nom de scène, PewDiePie. Et là, Mathieu, vous me dites...
Bien sûr, PewDiePie, je ne connais que lui. Je suis abonné à sa chaîne, d'ailleurs.
Très bien
joué. Qu'est-ce que je joue bien?
Mais oui, bien sûr, ce bon vieux PewDie. Eh bien, en mars 2017, c'est lui qui popularise ce terme de adpocalypse, l'apocalypse publicitaire. À l'époque, il est le youtubeur le plus suivi dans le monde. La raison, une polémique grandissante concernant des publicités placées avant, pendant et après des contenus extrémistes diffusés sur YouTube. Craignant pour leur image, quelques-unes des plus grandes agences mondiales et 250 annonceurs préviennent qu'ils ne feront plus de pub sur la plateforme de vidéo. Problème, ils représentent à eux seuls près de 20% des revenus publicitaires de YouTube. La perte se chiffre alors à plus de 750 millions de dollars, rien que pour cette plateforme. Vous comprendrez que ça affole tout le monde, à la fois YouTube, mais aussi tous les créateurs de contenu, car sans pub, c'est simple, terminer les PewDiePie et autres MrBeast ou Squeezie chez nous. C'est comme ça qu'on en vient à parler d'une adpocalypse.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Eh bien, YouTube a décidé de changer ses règles de modération et de monétisation. Quant à PewDiePie et aux autres YouTubeurs de l'époque, ils se plaignent que leur contenu soit aseptisé à force de devoir répondre à un cadre de plus en plus rigide. Mais comme ils n'ont pas le choix, ils se plient bon gré mal gré aux desiderata des manias de la publicité. Alors, qu'est-ce que cette adpocalypse dit de l'emprise des grandes marques sur les créateurs? Est-ce que c'est aussi valable dans le monde des médias historiques comme la radio, la télé ou la presse écrite? Spoiler, oui, absolument. Comment ne pas dépendre de la pub? Bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Nathalie Sonnac, si je comprends bien, pour poser les choses, le problème, si parfois les annonceurs se retirent comme ça en masse d'un coup d'un média, notamment YouTube par exemple, c'est qu'ils ne peuvent pas cibler leur publicité sur leur publicité, c'est pas eux qui décident à quel moment, derrière quel contenu elle va apparaître, contrairement à la télé.
Oui, c'est en fait la grande différence justement avec la publicité, c'est depuis la publicité sur les chaînes de télévision ou à la radio, c'est depuis l'arrivée de l'internet, que ça soit pour les chaînes en ligne, pour les sites, pour les applications, pour les vlogs, enfin l'ensemble en fait des contenus que l'on peut trouver, ils sont financés, comme le disait très bien Cyril, par de la publicité, par des annonceurs. Mais en l'occurrence, la publicité sur internet, c'est de la publicité en ligne, c'est ce qu'on appelle la publicité programmatique. Et cette publicité programmatique, c'est un système un peu complexe. Alors, je ne voudrais pas vous noyer, mais néanmoins, c'est un système qui est assez complexe. Ce n'est plus une allocation entre une offre et une demande, c'est-à-dire un annonceur qui fabriquait son petit programme avec son agence de com et qui allait voir un régisseur qui lui travaillait pour le compte du média et ils faisaient un deal ensemble. Et l'annonceur, Michelin, qui d'autre encore, Renault, Peugeot, se retrouvaient exactement là où ils voulaient, dans sa campagne publicitaire. Donc ils savaient où ils étaient dans la chaîne. La grande question, la grande problématique que se trouve sur la publicité en ligne, c'est que c'est un achat automatisé, c'est un système qui est assez complexe, qui est d'ailleurs assez opaque à la fois pour les annonceurs, mais même pour le créateur de contenu. Il ne sait pas quelle pub il va avoir sur son site.
Il y a quand même des humains derrière ça ou c'est un algorithme qui décide où vont aller les pubs?
C'est complètement un algorithme, donc c'est vraiment une plateforme d'échange qui va agréger, donc on retrouve avec l'agrégation de toutes les offres d'un côté, l'agrégation de toutes les offres, de toutes les demandes de l'autre côté, et puis ensuite on a une allocation des espaces en fonction des préférences de ces offres et de ces demandes, et puis vous avez une opération d'enrichissement et d'allocation qui va se réaliser en temps réel. En gros, vous êtes un internaute, vous ouvrez une page internet et vous êtes directement exposé à une publicité qui va cibler vos préférences, soit les préférences que vous-même vous avez dictées, soit celles qui estiment que ça soit de vous. C'est-à-dire, on estime que vous êtes un homme de plus de 50 ans qui habite à Paris, habituellement vous consommez tel et tel produit, boum, on
voit la publicité. Et ce n'est pas selon le profil du créateur de contenu.
Et ce n'est pas selon le profil du créateur de contenu. Il y a un vrai correcteur, ce qu'on appelle vraiment en anglais le blind, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une opacité totale dans ces pubs.
Mais c'est complètement incohérent, parce que moi j'aime la voiture, par exemple, je vais avoir une publicité de voiture et je vais aller voir une vidéo sur l'écologie, et je vais avoir une publicité de voiture avant la vidéo sur l'écologie.
Alors il n'y a pas forcément ça. Le but du jeu sur Internet, c'est justement de tenter d'aller, et c'est la force de l'algorithme, de vous connaître le plus proche possible. C'est-à-dire, plus vous avez laissé de traces, plus vous avez navigué, plus j'ai une connaissance de vous approfondie, et c'est cette paquet en fait de données ciblées des internautes qui sont vendues aux annonceurs, et c'est ça que l'annonceur achète. Mais au final, il ne sait pas toujours où se retrouve son annonce, sa marque en fait.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Quand des annonceurs se retirent brusquement d'un média jugé désormais radioactif, Zoom cet après-midi sur ce qu'on appelle l'adpocalypse, parce que ce sursaut d'éthique peut avoir des conséquences financières catastrophiques. Nathalie Sonnac est toujours avec nous, professeure en sciences de l'information. On essaie de comprendre comment la réaction en chaîne se passait. Est-ce que ça oblige les plateformes à être aussi plus vigilantes sur le contenu des vidéos qu'elles hébergent pour éviter par la suite des pertes financières?
Bien sûr, c'est d'ailleurs la réaction extrême qu'a pu avoir YouTube en 2017, qui a réitéré en 2018, et récemment on a pu l'entendre la semaine dernière avec Twitch, où finalement ils ont changé en fait l'algorithme, c'est-à-dire qu'ils ont obligé les youtubeurs, créateurs de contenus originaux, d'étiqueter leur contenu d'appartenance à une certaine catégorie pour pouvoir en fait d'une certaine façon légitimer la venue de l'annonceur sur leur site. Les conséquences sont très intéressantes, à la fois en matière monétaire bien évidemment, parce que si le créateur de contenu n'a plus de revenus publicitaires, ça pose un problème pour lui, et de fait, pour ne pas avoir cette perte de revenus, pour ne pas avoir ce boycott de la part des annonceurs, eh bien lui-même prend le risque de s'auto-censurer, de ne plus aller plus loin dans les contenus. Et d'ailleurs, j'ai lu un article récemment sur, en anglais, qui s'appelait, je vous le dis en français, la danse algorithmique, qui est paru dans Internet Policy Review, sur le boycott par les annonceurs, et qui ont démontré à la fois l'incidence sur la rémunération des créateurs de contenus, mais en même temps sur la nature des contenus. C'est-à-dire qu'ils ont analysé, ça impacte les deux, exactement. Donc c'est une réorganisation qui n'est absolument pas neutre, en fait.
On parle créateurs de contenus, on parle YouTube, mais ça affecte aussi des médias plus traditionnels. Il y a eu récemment des décisions de boycott de la part d'annonceurs qui ne voulaient plus être assimilés à un programme ou une chaîne de télévision. Ils l'ont fait parfois sous la pression des sleeping giants. C'est quoi les sleeping giants?
Ah oui, alors ces fameux géants endormis. Ouais. En fait, c'est un collectif qui a été créé en 2016 au moment de l'élection, la première élection américaine de Donald Trump, où le but était véritablement d'empêcher des discours de haine que l'on pouvait retrouver sur les sites.
C'est des justiciers un peu...
Il y avait une sorte de justicier des Robin des Bois, des annonceurs, et justement c'était une façon d'interpeller l'ensemble des annonceurs qui eux-mêmes n'avaient pas, ce dont on parlait précédemment, la visibilité sur là où se situait leur marque. C'est-à-dire que certains annonceurs pouvaient retrouver leur marque sur des sites
et découvrir
que leur contenu était associé à des contenus qui étaient en l'occurrence ici d'extrême droite, puisque c'était sur la chaîne Breitbart.
Ça rejoint la pratique du name and shame ?
Ça rejoint complètement cette pratique-là. L'idée est que le meilleur moyen d'intervenir et d'agir sur ces grandes plateformes, ou d'interpeller les annonceurs, c'est d'aller attaquer leur portefeuille. C'est-à-dire, c'est de livrer une véritable guerre économique.
Est-ce que ça marche, par exemple, CNews? On sait que ça a pu être le cas, la pression sur des annonceurs qui avaient des pubs sur CNews. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vraiment CNews a un problème avec sa publicité?
En tout cas, par exemple, pour le site causeur.fr, ça avait bien fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des marques, comme Michelin, qui c'était LinkedIn, Michelin, Toyota, la Fnac, Volkswagen, avaient véritablement blacklisté le site qui s'est trouvé dépourvu de recettes publicitaires, donc de revenus. Et si vous n'avez pas suffisamment de lecteurs abonnés qui viennent payer, vous êtes en crise économique assez rapidement. Le JDD a reconnu ça. CNews a connu ça dans une première période.
Mais
il semblerait que maintenant ça
fonctionne
beaucoup mieux.
C'est la loi de l'audience qui fait loi.
Toujours. De toute manière, la loi de l'audience fait loi, même si la marque peut ne pas avoir envie d'être associé. Mais la grande différence entre un CNews et un site en ligne, c'est que CNews, c'est une chaîne de la TNT, donc c'est-à-dire que vous êtes sur un modèle qui n'est pas le modèle de la publicité en ligne. Vous n'avez pas ce côté blind et d'annonces totalement automatisées.
Vous pouvez choisir d'être devant tel programme, mais
exactement,
pas devant tel
programme. Exactement, vous choisissez parce que vous vous connaissez en fonction de l'audience, en fonction de l'horaire de diffusion.
Oui. Mais le point commun, quand on parle de chaîne info ou de YouTube ou de Twitch, c'est que ça reste quand même sur des contenus politiques.
Alors ça reste sur des contenus politiques à partir du moment où effectivement la chaîne se déclare en étant politique. Après, c'est toujours pareil, dans du divertissement, il peut y avoir du politique. On voit bien que certaines émissions, notamment sur C8, on en a parlé récemment, l'infotainment rend compliqué en fait l'étiquetage. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup vont crier à la censure. Et c'est surtout cette ligne de crête où lorsque vous empêchez d'y aller, c'est de la censure. Et lorsque vous y êtes, eh bien c'est trop tard, vous risquez, vous en tant qu'annonceur, d'avoir votre marque qui est associée à un contenu qui n'est absolument pas dans les valeurs de votre propre modèle.
Question peut-être un peu naïve, mais est-ce que les chaînes ou les publications, elles ne peuvent pas se retourner contre les groupes qui font pression sur les marques pour diffamation, par exemple ?
Alors après, effectivement, il y a toute cette possibilité juridique de loi, elles peuvent se retourner, mais néanmoins, on voit bien que ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de façon générale en ligne, c'est que ces grandes plateformes dites GAFAM ont très largement la main toujours sur leur algorithme, qu'elles n'ont pas d'obligation finalement de le rendre transparent sous couvert de protection de leur modèle d'affaires, et on voit que les enjeux sont délétères.
Si vous avez du mal à vous remettre, voire que vous avez honte des excès du nouvel an, sachez que certains ont fait pire que vous, comme Quentin, qui s'est réveillé le 2 avec un tatouage maori dans le cou. Et en plus, la phrase veut dire « Je t'ai bien eu, Guillaume Meurice ». Car oui, il est désormais
je me suis réveillé le premier et le 2.
Vous êtes réveillé ?
Bah, le premier et le 2, ça a tenu 2 jours.
Ah, c'est vrai, ça a tenu 2 jours. C'était vraiment pas de la qualité.
Je suis allé au gant de toilette.
Au gant de toilette. Vous êtes désormais le monsieur micro-trottoir incontournable d'un test. Quentin, c'est dans la rue que vous êtes allé annoncer l'arrivée de l'Adpocalypse.
À la manière du prophète dans l'album L'étoile mystérieuse de Tintin, je suis allé annoncer la fin des annonceurs. Bon, ça a évidemment moins d'effet que la fin du monde, mais ça m'a permis d'aborder les gens dehors, dont Gabriel, ingénieur, 24 ans.
L'Adpocalypse ? D'accord. Alors, j'imagine que du coup, c'est un mot valise entre Apocalypse et autre chose. Ad. Ah, donc une pub, de la communication sur l'Apocalypse, je veux dire...
Vous chauffez, Gabriel.
Je chauffe, très bien.
Je lui explique à Gabriel que les annonceurs, les marques, quittent les plateformes comme c'est arrivé à YouTube il y a quelques années, ou Twitch, actuellement.
Sur l'exemple de Twitch, c'est sûr que c'est problématique, parce que c'est impossible de maîtriser à l'avance tout ce que vont dire tous les streamers.
Puisque c'est du live.
Voilà. Et donc, et puis en plus, c'est encore moins contrôlé, enfin, c'est moins lisse que la télé. Donc, je veux dire, il y a moins ce côté, je peux pas dire telle chose parce qu'il y a le producteur, parce qu'il y a tout ça.
Ah, il y a pas de rédacteur en chef, voilà. Il y a pas de filtre.
C'est ça. Et donc, du coup, je pense que pour les marques, c'est compliqué. Je pense que si j'étais une marque, j'aurais un peu peur, de faire ma pub sur Twitch. Parce qu'en me disant, il y a le risque qu'un streamer qui a une très mauvaise image, au final, fasse la pub de ma marque et que j'y sois associé, quoi. Donc je comprends que c'est assez problématique.
Mais alors comment garder l'âme du live de Twitch sans craindre le bad buzz ? Elle marche d'un pas décidé, capuche d'une parka bleue sur la tête, lunettes rondes et noires, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Aurélie.
Aurélie, vous avez quel âge vous ?
47 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Dans la finance. On modélise les marchés financiers et on calcule des prix théoriques d'instruments financiers.
Bon, ça ne m'avance pas beaucoup plus. Bon, voilà. Mais est-ce qu'elle connaît...
Ah, l'Adpocalypse. Je sais pas ce que ça veut dire. L'ad, publicité, apocalypse, oui. Ok. En gros, la fin de la publicité. Ok. Oui, mais parce qu'en fait, les publicités sont aléatoires, on va dire. Donc, en fait, ils se préoccupent pas de savoir sur quel contenu s'affiche la publicité. C'est
ça. Le moment qui touche la cible.
Voilà. C'est gênant, on va dire, qu'une marque, éventuellement, soit associée à des idées, parce que les gens ne font pas forcément la part des choses. Enfin, en tout cas. Ouais. Enfin, en même temps, les gens qui regardent ces vidéos-là.
Mais ben, ce sont les jeunes, surtout. Ils ne sont pas à négliger, car ils sont nombreux. Si on prend Twitch, par exemple, près de 7 millions de streamers actifs dans le monde, plus de 20 milliards d'heures de visionnage en 2023, et les études prouvent que les utilisateurs prêtent davantage attention à une pub sur Twitch que sur Facebook ou YouTube, donc les annonceurs visent une cible plus jeune et plus réceptive. Je lui rappelle un exemple d'Adpocalypse en 2020, cette fois à la télé.
Décathlon boycotte CNews et retire ses spots publicitaires. Alors, c'était quoi déjà ? Je m'en rappelle même plus. Vous voyez, moi je suis déjà passé à autre chose, je m'en rappelle plus ce que c'est.
C'était par rapport à Eric Zemmour.
Ah oui, certes. Oui. Ouais, bah là, pour le coup, Décathlon, ça va, je dirais, avec son image aussi. Donc je pense que finalement... C'était une bonne pub même pour eux, pour le coup.
Ah, alors est-ce que l'Adpocalypse devient finalement une bonne pub ? Je comprends plus rien. Ma dernière rencontre, c'est ce jeune homme, veste en cuir, trop grande pour lui, Converse, vernis de différentes couleurs sur les ongles. Quel est son prénom ?
Maël. Maëlle, vous avez quel âge ?
J'ai 20 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis étudiant en cinéma.
Je lui fais découvrir notre sujet du jour.
Ok, j'étais pas au courant. Twitch accusé d'antisémitisme, est-ce que la plateforme vit une apocalypse ? Ok, voilà. Alors attends, c'est compliqué à dire parce que ça peut dépendre de plein de trucs. Déjà, qu'est-ce qu'ils considèrent comme des propos antisémites ? Par exemple, avec ce qui se passe par exemple en Israël, Palestine, beaucoup de gens vont considérer que les gens qui sont pro-Palestine sont aussi antisémites, ce qui est, bah, personnellement, je dis que c'est faux. Par exemple, surtout sur Twitch, récemment, il y a eu énormément de soutien à la Palestine, beaucoup de cagnottes. Des streamers comme Amine Mathieu, qui a fait récemment une grosse cagnotte, bah, même tous les streamers Twitch récemment ont fait des grosses cagnottes et tout. Du coup, je sais qu'il y a des gens qui peuvent considérer ça comme l'antisémitisme.
Il est vrai que le contexte tend un peu les choses, mais alors, ça veut dire qu'on ne peut pas tout aborder sur un live Twitch ou dans une vidéo YouTube sans craindre de perdre son salaire ?
On va dire que, du coup, économiquement parlant, il y a ce truc-là où YouTube, Twitch dépendent des pubs. Du coup, il y a ce truc-là où, souvent, ça caresse dans le sens du poil les investisseurs, parce que c'est eux qui investissent. Et le fait que des annonceurs commencent à partir YouTube, ça peut permettre à YouTube et Twitch de remettre en question leur manière de faire et de redonner du pouvoir potentiellement aux créateurs de contenu, aux youtubeurs et aux streamers.
Tout en gonflant les équipes de modération alors, car entre les dérapages et le lissage des discours, l'équilibre est difficile à trouver pour la génération de Maëlle. Même chose pour ces streamers, chefs d'entreprise qui doivent vendre leur contenu. Prenons un peu de recul quand même sur l'apocalypse. Comme disait Jean d'Ormesson, ce n'est pas la fin du monde, mais seulement celle d'une autre.
Comme quoi, les plus belles de vos citations...
C'est pas de moi.
C'est pas de vous. C'est bien vu. Merci, Quentin. Nathalie Sonnac, est-ce qu'il y a un problème d'équilibre ? Il y a un équilibre qu'on n'a pas trouvé encore dans ce monde de la publicité avec les plateformes sur Twitch. C'est très compliqué encore.
Alors, c'est encore très compliqué. Ce qui est de plus en plus compliqué, ce sont pour les médias traditionnels. C'est surtout qu'une étude a été réalisée par l'ARCOM et la DGMI qui met en évidence qu'en 2030, 65% des revenus publicitaires seront accaparés par les plateformes. Et donc, ça signifie que ça délaissera complètement les médias traditionnels. Aujourd'hui, la grande problématique, c'est celle des médias, c'est-à-dire comment ils vont faire demain pour pouvoir fabriquer leur contenu, nous divertir et assurer la création.
Mais les médias traditionnels sont sur les plateformes aujourd'hui.
Oui.
Tout à fait, les médias traditionnels sont sur les plateformes, mais néanmoins, c'est encore le linéaire qui parvient à driver totalement leurs audiences. Mais vous avez raison, évidemment, c'est pas simplement une opposition entre les anciens et les vieux, mais nous sommes quand même dans une phase de transition, et dans cette phase de transition-là, les gagnants sont plutôt les YouTube et les Twitch, c'est-à-dire quand même des plateformes qui ne sont pas des plateformes françaises, ni européennes, et donc qui jouent avec d'autres règles que les nôtres, et il y a une vraie et véritable asymétrie, et ça, c'est une grosse problématique aussi, d'asymétrie de régulation entre les plateformes de partage vidéo d'un côté et les chaînes de télévision classiques de l'autre.
Quentin.
Est-ce qu'Aurélie a raison quand elle dit que les marques tirent profit de l'apocalypse ? Est-ce que c'est une bonne com ?
Alors, je ne suis pas certaine que ça soit une bonne com, parce que à la
fin... De dire je ne suis pas d'accord avec un discours ?
Alors, à la fin, on pourrait très bien dire, oui, je ne suis pas d'accord avec un discours, mais au fond, est-ce qu'on va retenir encore le discours ? Est-ce qu'on va... L'importance pour la marque, elle, c'est quand même du long terme, c'est-à-dire c'est une visibilité, c'est pas simplement l'achat d'un espace pub à un moment donné, c'est pas juste un one-shot, comme ça pourrait l'être pour une marque de distribution. En l'occurrence, elles ont besoin de durer dans le temps, donc il ne faut pas que leur marque soit associée à un contenu qui soit illicite. Quel qu'il soit d'ailleurs.
Ça peut être dans les deux sens, parce que j'imagine, on prend l'exemple d'une marque qui a boycotté C8, ça peut attirer l'attention sur les polémiques de TPMP par exemple, et leur faire un coup de pub en retirant la marque de la chaîne.
On peut toujours dire ça, je pense qu'on a déjà entendu des propos pareils sur l'extrême droite, quand on n'en parle pas, ça les fait monter, quand on en parle, ça les fait monter aussi également, donc ça profite à tous les deux. Non, ce qu'il faut bien comprendre, et d'ailleurs votre petit interview le montre bien, et c'est, moi je trouve, je suis assez étonnée, je suis assez contente de l'entendre, mais finalement c'est que les jeunes que l'on a entendus sont complètement conscients de la publicité, du rôle des annonceurs.
Oh, c'est des acteurs hein, qu'il a embauchés pour le trottoir.
Non, c'est des vrais gens. C'est des vrais gens.
Non, ce sont des gens qui ont suivi mon cours à l'université.
Exactement.
C'est des étudiants. Cours. Manon.
Mais en fait, ce qui profite le plus, ce qui est peut-être le modèle le mieux pour les créateurs de contenu, c'est quand ils font sponsoriser eux-mêmes leurs vidéos par des marques, du coup.
Oui, c'est-à-dire d'aller chercher eux-mêmes la financiarisation, comme ça peut se passer en radio. Vous avez besoin d'aller chercher vos propres annonceurs pour pouvoir reproduire votre émission. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut bien comprendre derrière, et ça serait intéressant que les gens en prennent conscience, c'est que l'information de qualité, alors que lorsqu'on est sur du divertissement, c'est une chose, lorsque nous sommes sur de l'information de qualité, et c'est ça qu'on défend d'un point de vue démocratique, c'est qu'elle a besoin de financement, qu'elle a besoin de financement pérenne, important, et qui ne soient pas non plus dépendants d'un seul acteur, d'un seul annonceur, qui, s'il se retirait, la fabrique de l'information serait par terre. Quoi.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Google sait tout de nous, du moins croit-il tout savoir de nous. Les publicités ciblées envahissent nos écrans, même si certaines trahissent encore les failles de l'algorithme. Puisqu'enfin, pourquoi ma boîte mail est-elle saturée de pubs pour les greffes capillaires? Ça n'a aucun sens, c'est si dense que durant les vacances, j'ai même pensé à faire des couettes. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui de ce que la publicité nous propose de pire. Dans les années 80, le pire était à la télé.
Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il aura la femme.
Eh oui, c'était une pub des années 80 pour Audi, Manon. Désormais, le pire est sur le net. On en a tous fait l'expérience, même si on n'a jamais eu la curiosité de cliquer dessus. Notre regard a déjà été attiré forcément par ces étranges petites pubs au titre chelou. Stéphane Bern, son garage va vous surprendre. Ou Benjamin Castaldi, la terrible maladie qui va vous choquer. Avant, on appelait ça un encart de France Dimanche. Désormais, on appelle ça des clickbait, ou plus prosaïquement, sous nos latitudes franchouillardes, des putaclic. Vous savez, ces pubs improbables qui surgissent dans votre fil actu, type 10 façons de ne pas répondre à un micro-trottoir. La troisième va vous étonner.
Ça vous est déjà arrivé?
Bah non, parce que ma mère est morte.
Celui-ci aurait été bien pour le coup. Pour ce quiz, je vais vous demander d'être créatif. Non, mais non, pas à ce point. Rendez-moi votre badge et votre paille. Je vais donc vous donner les débuts d'accroche de contenu sponsorisé. Et vous devez me donner la fin. Merci au compte Instagram, contenu sponsorisé. C'est parti, on commence tout en douceur avec cette pub qui commence par 20 célébrités qui croient aux extraterrestres, dont les frères et sœurs sont plus attrayants, ou qui mangent du placenta au petit déjeuner.
Oh, c'est...
Bah, placenta, ouais.
B.
Bah, oui, bah non. C'était plus... Même si, effectivement, la C pourrait exister. Ça va peut-être d'ailleurs leur donner des idées. Réponse B, sachant qu'il y a les Bogdanov en 1 et 2. Je vous laisse savourer le degré de n'importe quoi de cette info. Oui. Beaucoup plus zen maintenant. Ça commence pas comme une séance de petits bambous, l'appli méditative. Je cite cette phrase d'accroche typique des clickbait. Respirez profondément avant de voir le visage de Michel Sardou aujourd'hui. Oh là. Avec qui Cyril Hanouna partage sa vie. Ou le menu de la cantine de la maison de la radio.
B.
C'était les réponses A et B. Ah. Sans qu'on sache s'il y a un lien entre les deux annonces. On continue avec notre consoeur, la journaliste Élise Lucet. Pourquoi Élise Lucet? On ne sait pas. Qui elle aussi fait l'objet d'un clickbait aguicheur en ce moment. Comment Élise a-t-elle guéri du Covid en mangeant des légumes? Diminué sa facture énergétique de 80%? Ou acheté 8 appartements dans Paris en 6 mois?
B.
C.
On sent... L'homme qui a le goût de l'immobilier, le goût de la belle bière. Oui, 8 appartements, mais pas celui de Marie de Breuer. Courage Marie. Alors, celle-là, je ne sais pas où ils sont allés la chercher, parce que j'ai appelé évidemment Élise, qui est une amie, elle m'a confirmé ce que je pensais, à savoir, elle n'a évidemment pas acheté 8 appartements à Paris en 6 mois, elle n'en a que 6, elle les a achetés en 4 ans. Mais, à en croire ces publicités intempestives qui jaillissent dans notre fil actu, il n'y a pas qu'Élise Lucet qui va vous aider à booster votre PEL. Un autre gestionnaire de patrimoine étonnant va venir à votre rescousse, et pas des moindres, car figurez-vous que 2380 Français sont devenus riche grâce à PPDA,
oula,
Gérard Miller ou Coé.
Ah,
c'est
bonne réponse de Manon Mariani. Ah, effectivement, je vois que vous avez suivi ses conseils. Journaliste, écrivain, féministe et maintenant influenceur crypto, ce garçon nous surprendra toujours. PPDA. Donc, heureusement, il y a parfois des petits éclairs de bienveillance dans ce monde sans pitié de ceux qui vous remettent du baume au cœur. Tenez, celui-ci, par exemple, commence par Muriel Robin. Essayez de ne pas vous étouffer en voyant le visage de sa sœur. De ne pas rire en apprenant ce qui est arrivé à son chien. Ou de la faire monter en voiture avec Pierre Palmade.
B.
Ouais, son chien.
C'est le chien.
Non.
C.
Non.
A.
De ne pas vous étouffer en voyant le visage de sa sœur. Et celle-ci, je l'ai vue personnellement, je l'ai expérimentée. Il est arrivé
vous
sur
avez, vous avez cliqué aussi.
Et alors, non, j'ai pas cliqué, j'avais vraiment peur de mourir étouffé pour de bon. Mais il n'y en a pas que pour les stars. On va finir là-dessus. Les anonymes, les nobody sont parfois au centre de ces petites annonces. Il leur arrive des trucs de fou. Hein. Exemple, à 23 ans, il devient père. 7 jours plus tard, il oublie son enfant dans nos supermarchés. Il devient maire ou il devient grand-père. Qu'est-ce que vous dites quand c'est la C, mais bien sûr. Alors là, j'ai cliqué. Parce que là, j'ai cliqué, j'ai essayé de faire le calcul. Ça fonctionnait pas. Alors j'ai quand même cliqué. Et là, c'est un vrai truc. Juste après être devenu père, un Australien a adopté sa cousine de 17 ans, SDF et enceinte, afin qu'elle ait un toit et qu'elle puisse garder son enfant. C'est donc comme ça qu'il est devenu grand-père. Tout finit bien. Qui finit bien dans le monde merveilleux des putaclic. Victoire de Quentin Lee. Exceptionnel, Quentin.
Incroyable.
Magnifique. Alors, pour vous dire la vérité, en régie, on vient de me dire « Oh, on a oublié de calculer, donne la victoire à qui tu veux ». par charité Pourquoi chrétienne, je décide de vous la donner. Zoom, les amis, sur l'apocalypse ou quand les marques boycottent les médias et peuvent provoquer des crises économiques. On est toujours avec Nathalie Sonnac, professeure en sciences de l'information et de la communication à Paris Panthéon Assas. Justement, Nathalie, est-ce que le régulateur des médias, l'ARCOM, vous aviez bossé avant au CSA, est-ce que l'ARCOM aujourd'hui peut aussi intervenir dans la régulation de la publicité?
Alors non. Non, il supervise la régulation des très grandes plateformes en ligne et des moteurs de recherche, mais en revanche, vous avez une autorité qui s'appelle l'ARPP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, qui est de la co-régulation et qui regarde, justement, qui est attentive à ce qui peut être diffusé en ligne et non en ligne.
Et il y a parfois des sanctions qui tombent.
Et qui a parfois des sanctions qui tombent, effectivement. Mais en tout cas, ce n'est pas le job de l'ARCOM
de faire ça.
Que de faire ça.
Il faut revenir, c'est comme le cœur de cette émission, l'apocalypse, comprendre ce mécanisme que franchement moi j'ai découvert en préparant l'émission, c'est-à-dire que sur Internet, contrairement à la télé, contrairement à la radio, les annonceurs sur Internet, ils achètent en gros, ils achètent des sortes de paniers et ils ne savent pas précisément où va tomber, où va atterrir leur pub et ils peuvent se retrouver par exemple sur un site d'extrême droite, c'est possible.
Alors c'est possible, ou en tout cas c'était possible jusqu'à, alors ça doit l'être encore, mais néanmoins YouTube, Twitch, l'ensemble des grandes plateformes ont véritablement tenté d'arrêter cette ad Apocalypse, en intervenant sur le système algorithmique, déjà en augmentant, et ça c'est l'ARCOM qui le fait avec des obligations de la Commission européenne, d'augmenter le nombre de modérateurs avec une obligation de modération humaine et technique pour retirer le plus rapidement possible lorsque c'est possible. Ensuite, vous avez un système de régime de démonétisation, comme on dit, de vidéos qui seraient indésirables, et aussi également un système de certification, c'est-à-dire que YouTube, finalement j'ai regardé un peu les chiffres, vous avez 42 000 chaînes en France sur YouTube. Il y en a 20 000 qui sont éligibles aux règles de YouTube et il n'y a simplement que 1100 chaînes qui sont effectivement qui appartiennent aux programmes partners, qui sont des partenaires dont les créateurs sont des partenaires du système de YouTube. Donc on voit bien que derrière, parce qu'on s'interrogeait, on s'inquiétait, on le comprend bien, à la fois côté annonceur, de ce côté je ne sais pas où je vais mettre ma pub,
et à la fois côté créateur,
de combien je vais avoir de pubs. Donc il y a ce côté, c'est finalement YouTube et donc la plateforme qui a la main. C'est ça en fait. Moi je pense qu'il faut vraiment noter derrière la question de l'apocalypse, c'est ce système algorithmique, c'est la gouvernementalité algorithmique, c'est YouTube qui change les règles du jeu quand il veut. On ferait la même chose sur les chaînes où l'ARCOM dirait du jour au lendemain je change la règle.
Ça
serait la révolution. Et à juste titre d'ailleurs, ça serait la révolution. En l'occurrence ici, c'est véritablement les plateformes qui ont totalement la main et qui décident, et finalement qui ont droit de vie ou de mort sur un créateur comme sur n'importe quelle chaîne de télévision, n'importe quelle chaîne sur YouTube.
On peut avoir une idée des prix? Combien ça coûte de mettre une pub sur un site, sur un panier de clients, c'est ce que disait Mathieu à l'instant. Je lisais 10 000 euros pour commencer sur Twitch.
Alors je pense que ces prix-là varient totalement, comme d'ailleurs sur la publicité sur les chaînes de télé ou en télévision ou en presse écrite, bien évidemment. C'est-à-dire que ça va dépendre du nombre de YouTubeurs. Ouais. Donc ça va dépendre en fait de la reconnaissance du YouTubeur. Donc combien en fait il est suivi, il a d'abonnés, il a un abonné ou il a un million d'abonnés, c'est évidemment pas la même chose. Donc d'ailleurs, ça fait partie des règles d'éligibilité de la part de YouTubeurs, de savoir combien vous avez vidéos qui sont postées chaque jour, la récence de vos vidéos et le nombre de followers. Et donc là, effectivement, mais il y a une vraie... c'est pas totalement transparent. Ouais. C'est-à-dire que personne n'a terriblement envie d'afficher de combien il gagne. Oui. Ce que l'on sait, les études mettent en évidence que quand même, vous avez à peu près 10% des youtubeurs créateurs qui gagnent véritablement très très bien leur vie. C'est toujours la règle de Pareto, le 80-20, quoi. 20% qui arrivent à ramener 80% du chiffre d'affaires du total.
Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, il y a des annonceurs qui font payer leurs pubs que pour les plateformes et plus du tout pour les médias traditionnels.
Alors effectivement, il y a des annonceurs, en tout cas... Alors, il y a encore quand même, c'est-à-dire que les chaînes de télévision arrivent encore à fournir suffisamment d'audience, notamment un JT de 20h, vous prenez celui de TF1 et de France 2, ça fait quand même 10 millions de téléspectateurs qui ne restent pas simplement une minute et demie derrière la vidéo, mais qui vont rester 30 minutes derrière. Non, donc on est encore dans des ordres de grandeur où la télévision est encore un gros driver, si vous me permettez l'expression, d'audience. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que effectivement, ils se tournent, les annonceurs, de plus en plus là où sont les gens, et s'ils veulent une cible qui est jeune, qui est complètement en train de quitter la télévision, eh bien là, automatiquement, il faut aller sur YouTube, il faut aller sur TikTok.
Mais est-ce que, dans, si on se projette un peu dans le futur, la publicité traditionnelle, sur les chaînes de télé notamment, elle va vraiment perdurer, ou peut-être que les marques vont préférer payer très cher pour avoir un super référencement Google que d'investir des millions dans des spots télé?
De toute manière, ça a toujours été la question de l'annonceur, c'est-à-dire soit il choisit la puissance et la force de frappe que peut avoir un média, c'est-à-dire où les gens sont là, présents et très nombreux, soit il choisit une niche, donc il peut très bien préférer avoir une chaîne de télévision ou une chaîne sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme qui soit beaucoup plus qualitative et dont l'audience correspond parfaitement. Ce qui est intéressant dans le modèle du numérique, et c'est toute la force de l'algorithme aujourd'hui, c'est d'être capable de nous cibler, c'est avoir une connaissance extrêmement affinée, hein, ce qu'ils appellent la psychométrie, c'est-à-dire une connaissance très affinée, au-delà de ce que connaissaient toutes les chaînes habituellement ou les titres de presse, à savoir votre sexe, votre âge, votre catégorie socio-professionnelle et à la limite le lieu géographique où vous habitez. Aujourd'hui, on a une connaissance bien plus approfondie, c'est-à-dire que vous avez des auteurs comme Shoshana Zuboff qui vous disent « on vous connaît ». Ah, je sentais que j'anticipais le truc.
Il l'adore, Mathieu.
Parce que moi aussi,
c'est un livre que je vous conseille.
Que je recommande chaudement, tout à fait, où justement on vous dit que finalement l'algorithme vous connaît mieux que vous-même.
Une toute dernière question, mais soufflée par Cyril Lacalle, notre rédacteur en chef, éminent spécialiste média, qui nous dit, en régie, les chaînes de télé aussi peuvent faire maintenant de la pub ciblée. Alors comment Gilles Boulot peut savoir quels sont mes goûts?
Oui, alors ils peuvent faire de la pub ciblée, notamment parce qu'en fait, vous avez une télévision connectée aujourd'hui.
Ah, oui,
et donc,
oui,
vous allez regarder votre chaîne de télévision, même si c'est un ancien média, média historique. Néanmoins, c'est pas forcément... La télévision à papa a quand même des informations sur vous. Mais néanmoins, aujourd'hui, en ligne, la connaissance est bien plus approfondie que ce que peut-être auparavant des médias dits traditionnels.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Michael Gunlash. Il a une cinquantaine d'années, il est allemand et en 2009, il a créé l'une des extensions les plus populaires pour contrer la publicité sur Internet, Adblock. Très discret, Michael Gunlash est un développeur et un programmateur informatique. Grâce à son métier pendant des années, il a fait face à l'énorme quantité de publicité intrusive qui polluait de plus en plus notre expérience en ligne et il a donc cherché une solution pour mettre fin aux pop-up, aux bannières et aux publicités vidéo. Parce qu'on s'en souvient, peut-être peu, mais dans les années 2000, les pubs sur Internet, c'était insupportable. À chaque fois qu'on ouvrait une page, 10 autres s'ouvraient avec de la publicité. À la base, Michael Gunlash a conçu Adblock comme une extension pour le navigateur Firefox. Le fonctionnement était simple et l'est toujours. Une fois installée, elle permet de supprimer automatiquement les publicités des pages visitées. Résultat, la vitesse de navigation est meilleure et les pubs sont quasiment devenues inexistantes. Puis, à partir de 2010, Adblock a été adapté à tous les navigateurs. Mais évidemment, la création de Michael Gunlash a eu des répercussions sur l'industrie de la publicité en ligne. De nombreux sites web qui vivaient principalement de ses revenus ont vu leur modèle économique menacé par Adblock. Ce système de blocage a conduit à des tensions entre Michael et les annonceurs. Ce qui est drôle, c'est qu'il a dit dans une interview que beaucoup de chefs d'entreprise lui écrivaient pour se plaindre, mais aussi pour le féliciter, car malgré tout, ils utilisaient eux aussi son extension qu'ils adorent.
Oui.
Et puis, selon certaines sources, Adblock aurait aussi passé des accords avec certains annonceurs pour que leur pub soit épargnée. Mais les choses ont bien changé aujourd'hui avec l'avancée de l'intelligence artificielle. Les sites sont maintenant capables de détecter facilement si Adblock est utilisé. Et si c'est le cas, on doit obligatoirement le désactiver pour pouvoir visiter le site. Dernièrement, c'est YouTube qui est parti en guerre contre les bloqueurs de publicité. La plateforme tente de bloquer les bloqueurs, c'est difficile, mais ils tentent. Les apocalypses ont donc beaucoup plus de chances d'avoir de l'impact encore aujourd'hui.
Merci beaucoup Manon, Nathalie Sonnac. Adblock, c'est vrai que c'est séduisant sur le principe pour nous, les consommateurs, mais c'est pas viable économiquement pour les plateformes et pour ceux qui produisent du contenu.
Mais c'est toujours la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire à quel prix vous êtes prêt à payer l'information. Si vous n'êtes pas prêt à payer, quelqu'un va le faire pour vous. Donc si là, vous ne vous coupez en plus les recettes publicitaires, le danger, c'est quand même bien ça qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que ce sont encore les médias qui investissent dans de l'information, dans la création, et que s'il ne voit plus de recettes publicitaires, eh bien le rôle démocratique du média est très très en difficulté.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Alors que les Pyrénées furent le théâtre il y a quelques jours de deux drames liés aux fortes chutes de neige, certains blâmeront la fatalité. Lui, sait pertinemment qu'il n'en est rien. S'il a tant neigé à Noël sur la Mongie, c'est que Pierre Courade a trop prié Dieu pour qu'il répande ses flocons afin, je le cite, que la Marianoche ferme son clapet de vipère snob et regrette d'avoir claqué un salaire mensuel pour une semaine en demi-pension à Méribel en février. Pierre Courade, vous avez beaucoup à vous faire pardonner. Alors, commencez par nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
L'abbé Chibrard sait que je ne fais pas de publicité. Cité mensongère pour la Mongie, sinon j'irai en enfer sans attendre l'apocalypse. Habile transition évidemment de l'apocalypse. C'est quand les annonceurs quittent subitement un média mettant à mal leur modèle économique, ad pour pub en anglais, apocalypse pour apocalypse, le désastre économique. Une situation qui a pu avoir des répercussions concrètes pour des médias. CNews a dit avoir perdu beaucoup d'argent lorsque Éric Zemmour présentait son émission quotidienne sur la chaîne et que des annonceurs se sont retirés. Mettre la pression sur le nerf de la guerre, c'est une manière pour ces annonceurs de ne pas coller l'image de leurs clients à des émissions jugées infréquentables. Des groupes se mettent en place sur Twitter pour lister les marques qui continuent de diffuser leurs pubs dans des médias qui ne véhiculeraient pas leurs valeurs. C'est plus difficile en revanche sur Internet où le marché de la pub n'obéit pas au même code. Notre invitée Nathalie Sonnac, professeure en sciences de l'information et de la communication, nous a expliqué que les grandes plateformes numériques faisaient leur marché dans une sorte de bourse de la pub, charge à l'algorithme de cibler les consommateurs et diffuser la pub correspondant au goût de l'internaute. C'est quasiment l'inverse dans les médias traditionnels où les annonceurs passent des deals avec des régies de gré à gré, une méthode moins efficace et une autre mauvaise nouvelle pour l'ancien monde médiatique. 65% du marché de la pub se fera sur le net en 2030. Plus de pub, plus d'argent, plus d'infos. Ici à Radio France, pas de risque d'apocalypse puisque nous n'avons déjà pas de publicité.
Un tout petit peu.
On ne vit pas là-dessus.
Enfin, on ne vit pas là-dessus. Mais en tout cas, très belle explication. J'aurais notamment retenu le ad pour publicité, ouais, et apocalypse pour apocalypse. C'est quand même vraiment...
Il fallait quand même le préciser,
l'explication.
C'est la mission.
2025 démarre sur les chapeaux de roue pour faire Courade.
Il a raison.
Tout le monde n'est pas tant...
C'est un anglicisme.
Rosa Buchstein, la censure en ligne, vous connaissez, je crois.
Cher Mathieu, la censure, c'est une histoire de famille. De père en fille, on se la transmet. La censure et le psoriasis, même combat. Et la moustache, sauf que la censure, ça ne s'épile pas. Mon père était producteur de films d'auteur et notamment de films chinois, qui ont surtout été vus en Chine, non pas au cinéma, car censurés par le gouvernement, mais en DVD via le piratage. Donc, endettement pour mon pauvre papa, dépôt de bilan, adultère avec une hôtesse de l'air, chantage à la sextape, divorce, solitude, coup d'un soir avec Nagui, bref. Je vais pas vous faire l'historique de la famille Bernstein, mais peut-être que si chaque Chinois avait vu ces films légalement, mon père aurait continué de nous amener au ski, alors qu'au lieu de ça, on a beaucoup visité Paris, où on habitait. Voilà, pratique, pas loin, la rue du Sentier, c'est vallonné. Et moi, je m'étais juré d'être plus maline. La comédie, c'est plus vendeur, a priori, que les films sociaux sur la condition ouvrière en Mongolie intérieure. Sauf qu'on n'échappe pas à son déterminisme. Donc, comme une conne, j'ai créé énormément de contenu féministe sur la sexualité. Bah, résultat, je suis 100% démonétisée sur YouTube et la plupart des annonceurs ne veulent même pas diffuser de la pub dans mon podcast à cause de son titre sulfureux « Les mecs que je veux ken ». Vous allez me dire, je le cherche un peu. J'aurais pu appeler mon podcast « Les gens avec lesquels j'aimerais m'entretenir autour d'un thé et des biscuits, c'est plus poli. » Ce à quoi je vous répondrais, ça va, je ne l'ai pas non plus appelé les connards dont j'ai sucé la bite. Mais tu vois, je veux dire... Et clairement, j'aurais pu. J'avais de la matière en invité. Hein, vraiment. J'aurais pu même les classer selon la propreté du slip. Ouais. Enfin, voilà pourquoi je suis controversée. Mais j'ai quand même réussi à dénicher un job d'influenceuse. J'ai été invitée pour les vacances de Noël au ski. Papa, j'ai réussi à contrer la malédiction. Je suis retournée sur les pistes. En échange d'un post et de story, avec mon copain, on a été logés, nourris une semaine dans un super hôtel à Morzine. Seul bémol. En fait, mon mec est le ski parce qu'il est trop nul. Il se faisait doubler par des gamins de 4 ans qui passaient leurs flocons de neige. Je m'arrêtais tous les 3 slaloms pour lui dire « Michael, ski parallèle, jambes fléchies, tu vas pas faire toute la piste en chasse-neige, mauviette !» Les gens me prenaient pour une mère abusive qui insulte son fils handicapé. Ça m'arrangeait bien, il s'écartait pour nous laisser la priorité au télésiège. Je chuchotais à Michael « Vas-y, bave un peu, ça se trouve, on aura aussi une réduction sur les forfaits. » Désolé France Inter, je crois que je viens de faire démonétiser. la vidéo de cette chronique en replay.
Et c'est foutu.
En fait, plus que tout, Mickaël ne supportait pas les chaussures de ski. Au magasin, il a essayé 10 paires. Il hurlait dès qu'il mettait le pied dans la chaussure. Et moi, je criais « Enfonce, Mickaël, enfonce d'un coup !»« C'est pas grave si ça fait mal, tu vas t'habituer. C'est bien que ce soit un peu serré. »
Bien.
Bref. Je suis pas sûre que ce soit le genre de story que l'hôtel voulait. Peut-être que je sais pas, créer du contenu good vibe, hashtag best life, hashtag inspiration, hashtag fun, hashtag sunshine, hashtag happiness, hashtag tu fais quoi, hashtag j'en ai marre de t'attendre, hashtag bulos. En fait, faut que je perce en tant qu'influenceuse voyage toxique. D'ailleurs, on cherche un spot pour les vacances de février. Si jamais il y a des hôtels intéressés par un couple dysfonctionnel, notre valise est déjà prête.
À la Mongy. Directement, une idée comme ça.
Place.
Merci. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Et c'est une bonne résolution pour 2025. Nos auditeurs peuvent prendre leur place pour votre nouveau spectacle dédoublé au Théâtre de l'Œuvre et bientôt en tournée partout en France. Merci beaucoup Rosa Burstein. Merci Nathalie Sonnac de nous avoir raconté l'apocalypse. Vous ne bougez pas car Zoom Zoom Zen la suite. Merci encore. Je rappelle votre livre qui est excellent. Ah oui. Le Nouveau Monde des Médias, une urgence démocratique aux éditions Odile Jacob. Zoom Zoom Zen.